BFM Business et la Tribune présentent Débat et controverse. Les experts. Laure Clauzier.
Il est 10h02 sur BFM Business. Les experts aujourd'hui, c'est avec Agnès Verdier-Molinier, avec Denis Père et avec Jean-Marc Vittori. On essaie de se remonter le moral, en essayant de baisser les dépenses en France, avec beaucoup d'espoir du côté de nos invités. Enfin, Jean-Marc, vous êtes plutôt de mon côté.
Oui, attention, si on baisse la dépense publique trop fort. Quand vous regardez la note de conjoncture de l'INSEE, il y a un graphique moi qui m'a fasciné, qui est une comparaison européenne et qui montre que sur la dernière période, en France, ce qui a provoqué le plus de croissance, c'est la consommation publique. Donc, si vous coupez massivement la dépense publique, vous allez avoir immédiatement une
activité. C'est tout le problème.
Et si vous regardez, si vous comparez dans d'autres pays, il y a à peu près pareil pour la dépense publique, mais il y a aussi de la consommation, il y a aussi de l'investissement. Et la consommation publique, c'est évidemment tout l'effort qu'ils sont en train de faire sur leurs infrastructures et la défense. Et ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens. En 2002, la France et l'Allemagne avaient une dette publique qui dépassait 60% du PIB. Nous, on approche maintenant les 120%. Les Allemands sont nettement en deçà, donc ils avaient une marge de manœuvre qu'ils ont pu exploiter.
Agnès. Oui, non, mais Jean-Marc a raison de dire qu'il faut une réorganisation totale de l'ensemble des administrations et que cette réorganisation, on ne l'a pas vu venir. Depuis des années, on en parle, on ne fait rien. Par exemple, les caisses d'allocation familiale, il n'y a aucune raison de garder des caisses d'allocation familiale sur tous les territoires. Il faudrait que tout ça soit centralisé à Bercy, digitalisé, que ce soit versé. Toutes les aides sociales devraient être versées en fait en crédit d'impôt, tout devrait être concentré dans le revenu fiscal de référence. On ne devrait pas être en train de se dire, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fraudé en étant inscrit dans plusieurs départements aux aides sociales? Enfin, on est resté scotché dans les années 80, en fait. Et on ne veut pas, en fait, en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sénateurs qui ont fait une proposition, d'ailleurs, ça avait été voté au Sénat, réunir la carte d'identité et la carte vitale. Toutes les administrations ont freiné des cas de fer en disant, ben non, mais moi, je ne veux pas partager entre la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, je ne veux pas partager avec le ministère de l'Intérieur mes données. Et donc, en fait, les administrations, même s'il y a des gens excellents dans les administrations qui n'ont qu'une envie, c'est que ça change. Et il y a plus de 50% aussi des agents aujourd'hui qui aimeraient plus que les embauches soient sous contrat et non plus sous statut. Hein. Donc, il y a quand même plein d'agents et de plus en plus d'agents qui sont pour la réforme parce qu'ils voient, en fait, qu'on va dans le mur. Surtout d'ailleurs ceux qui gèrent la dette française, hein, ils voient bien à un moment que
il faut faire l'AFP. Ouais.
Alors ils sont la plupart ils sont pas fonctionnaires, hein, mais ils voient bien que il y a quand même un petit souci au bout du chemin. Mais le souci qu'on a, c'est que finalement nos différentes administrations sont autant de freins à la réorganisation. Et là aussi, il faut peut-être se poser la question de comment on les recrute, hein, ceux qui dirigent les administrations françaises. Est-ce que on continue à recruter comme on fait aujourd'hui, ou est-ce que demain, on prend pas des gens qui ont une vraie expérience dans le privé, qui ont géré des crises importantes, qui ont réussi à faire des coupes dans la dépense des entreprises et qui ont réussi à rééquilibrer. Le problème, c'est que nous, on coopte que des gens qui, finalement, sont de l'intérieur de notre administration elle-même et qui n'ont pas forcément envie que ça bouge. Denis.
Oui, il faut faire tout ce que dit Agnès. Il faut aussi modifier les méthodes de management et les méthodes de gestion des ressources humaines qui sont totalement archaïques aussi. On a les pieds et poings liés quand on est manager d'une entité publique. On n'a pas les deux principaux leviers du management. Le premier levier, c'est je récompense, j'augmente la personne. Le deuxième levier, c'est je sanctionne et je mets à la porte le cas échéant. J'ai rencontré récemment deux personnes intéressantes. Une personne qui dirige un des principaux établissements publics de santé français, qui me disait, après une longue discussion, à titre privé, une longue discussion où j'essayais de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, etc. La personne m'a lâché un peu désespéré, m'a dit, mais en fait, c'est parce qu'on ne peut pas mettre les gens à la porte. On ne peut pas mettre les gens à la porte, monsieur Père. Donc, il y a ce problème-là. Il faut pouvoir mettre les gens à la porte. Il ne faut pas le faire par plaisir, c'est jamais agréable, mais il faut pouvoir le faire. Et ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui dans la fonction publique. Et je crois que sur 5,8 millions de fonctionnaires, il y a 12 fonctionnaires qui ont été mis à la porte l'année dernière.
Ça fait partie des propositions
extrêmes.
De rendre le pouvoir aux directeurs d'établissement, aux hôpitaux.
Un maximum de subsidiarité, mais pas que. C'est-à-dire donner la possibilité de rompre le contrat de travail, et de façon simple et rapide. Évidemment, de façon documentée, avec tous les droits associés, bien entendu, et tous les recours possible, mais de pouvoir le faire. Et puis l'autre sujet, c'est un autre témoignage d'un chirurgien qui vient de prendre sa retraite, mais qui a passé toute sa vie au 15-20 à Paris, dans un hôpital bien connu, et qui m'a dit, mais Denis, c'est un ami qui m'a dit, mais Denis, on ne peut même pas remercier les gens. On ne peut pas remercier les gens qui travaillent avec toi. Vous avez une équipe autour de vous de collaborateurs, d'aides médicaux, d'infirmiers, d'infirmières.
Vous ne pouvez pas manager.
Vous n'avez pas les deux principaux leviers du management n'existent pas. Comment voulez-vous performer dans ces conditions? Vous avez forcément, dans ce cas-là, une dépense publique inefficace, c'est évident.
Jean-Marc Vittori, je voudrais qu'on revienne sur la note de conjoncture de l'INSEE. Je suis un peu obsédée, mais ça m'a un peu traumatisée à sa lecture hier soir.
Remettez-vous là.
Non, mais elle est quand même un peu trash quand même.
C'est vrai.
On se dit, quand on voit que 55% aujourd'hui des gens sont attirés par des gens qui leur promettent et la retraite à 60 ans ou plus de dépenses ou tous les immigrés dehors comme solution, est-ce que vous vous dites que finalement, quand tous ces gens vont potentiellement arriver au pouvoir, ils vont soulever le capot, ils vont dire « Ah, en fait, je ne peux rien faire ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas, en fait, l'idée que peu importe qui va arriver au pouvoir en 2027, de toute façon, il ne pourra rien faire d'autre que de réformer les retraites, que de baisser la dépense, parce qu'il n'aura pas le choix.
Ça, c'est la version mélonisation. Hein. Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir en Italie avec un programme extrêmement ferme, et puis elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire un certain nombre de choses. Sur l'immigration, notamment, elle avait dit « on ferme complètement les portes », et son ministre de l'Intérieur, qui était du même parti qu'elle, a dit quelques mois plus tard que finalement, dans les 3 ans, il allait falloir tout de même accepter 500 000 immigrés, sinon l'économie italienne allait être à la peine. Ça, c'est effectivement le scénario, optimiste. Mais optimiste parce que les dirigeants se rendent compte qu'il va falloir faire autrement que ce qu'ils pensaient et que sinon ça va être compliqué. Mais il y a aussi la possibilité de dire on s'en fiche, on accélère, pimpon, pimpon, on va dans le mur, dans la joie, et on y va. Et moi,
Ça ne va pas durer très longtemps. Bah, Liz Truss, ça dure 2 jours, quoi.
Voilà, exactement. Sauf que Liz Truss, ça s'est réglé finalement de manière assez propre. Hein. Ça n'a pas fait exploser. Moi, je pense que plus ça va, plus en France, je ne vois pas comment est-ce qu'on va éviter d'aboutir à une explosion qui sera une explosion brutale.
Et donc une explosion brutale, ça veut dire le taux à 10 ans qui part dans le mur, quoi.
Ça veut dire ça. Ça veut dire une obligation de changer les choses avec une violence inouï parce qu'on n'aura pas le choix.
Obligation par la BCE ?
Obligation.
Qui nous rachète des obligations ?
Obligation par la BCE, ou si on dit, ceux qui aspirent au pouvoir, l'idée que on sort de l'Europe, on fait tout exploser, et puis on émet de la dette et on n'aura pas de problème, sauf que cette dette, évidemment, absolument personne ne voudra l'acheter. Et donc, on se retrouvera avec les problèmes des assignats à la Révolution.
Ça, c'est quand vous voulez faire des cauchemars, avant de dormir, vous pensez à ça ?
Quand vous regardez ce qui s'est passé, moi, plus ça va, plus quand on regarde ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est même impressionnant. Hein. Donc, 1788, on a une canicule, on a de la sécheresse, on a aussi des orages extrêmement violents, on a un hiver terrible. Donc on a des conditions climatiques extrêmes qui provoquent des...
Mais vous nous annoncez quoi, la guillotine pour le roi ?
Donc, d'un côté, on a ça. De l'autre côté, on a un problème majeur de dette publique. Quand le roi Louis XVI convoque les États généraux, la première phrase, c'est « Vu l'état désespéré de nos finances publiques, il faut qu'on se mette d'accord sur comment faire. » Et avec un problème, là, je suis désolé, Agnès, mais là, il y avait un problème d'impôts qui ne devait pas rentrer, qui aurait dû rentrer et qui ne rentrait pas.
Enfin, c'est pas le cas aujourd'hui.
C'était l'époque où on n'arrivait pas à faire rentrer les impôts. Là, ça rentre bien.
Attention, je vous rassure. Là, ils n'oublient pas de fonctionner.
Je veux bien prendre le point.
Mais vous êtes vraiment inquiet, Jean-Marc.
Oui. Je ne vois pas comment, avec la mécanique politique actuelle, je pense qu'on a un vrai problème, on a une mécanique de la Ve République, je pense, qui est en train de s'user, qui est à bout. Hein. La France a eu besoin de changer ses institutions plus souvent que les autres pays. Hein. Les États-Unis fonctionnent avec une constitution depuis maintenant près de 2 siècles et demi. Le Royaume-Uni avec une constitution informelle. Voilà, nous, on est obligé de changer. Quand vous regardez la Troisième République, hein, qui a été le régime le plus long depuis la monarchie, ça a été 1870, 1940, ça fait 70 ans, on n'est pas très loin des 70 ans
d'accord,
de la Cinquième République.
La Cinquième, on l'a épuisée parce qu'en 2022, il n'y a pas eu de choix de faire une coalition. Franchement, il y avait des solutions.
Les problèmes économiques de la France ne remontent pas à 2022.
Oui, mais en fait, la bascule...
L'incapacité de la France de maîtriser sa dépense publique, elle est
bien antérieure. La bascule, voilà. C'est Covid 2022, pas de majorité, pas de capacité à voter les budgets, pas de loi de finances rectificative quand il y a du dérapage, et de plus en plus de niveau de déficit. Et là, les 0,4 de croissance...
Mais encore une fois, ça a commencé bien avant.
Bien avant. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron arrive en 2017 au pouvoir en disant dans son livre Révolution, je vais baisser la dépense, je vais baisser la dette.
Dans son livre, il explique très bien,
notamment chapitre 5, qu'il faut absolument alléger la dette pour les prochaines générations, etc. Il le dit très très bien. Et derrière, en fait, il ne le fait pas. Et donc, le problème, c'est que le sujet s'aggrave. Derrière, on a le Covid. Derrière 2022, au lieu de faire une coalition comme dans n'importe quel pays européen, parce qu'on a le 49-3, on dit on s'en fout, c'est pas grave, on n'a pas de majorité, mais on continue à piloter à la petite semaine. Et quand on pilote à la petite semaine des finances publiques qui vont déjà mal, on les emmène dans le mur, c'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est que là, 0,4 de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un déficit qui va être autour. Alors, Lescure va parler, le ministre de l'économie,
dans un quart d'heure, mais en gros, nous,
à la Fondation IFRAP, en janvier, on a sorti une note de conjoncture qui dit qu'on sera à 5,4 en 2026. Depuis janvier, nous, on le publie. Et là, tout d'un coup, ils vont dire, on découvre qu'on va être autour de 5,4. Mais c'est grave. C'est grave parce qu'on devait être à 4,7 de déficit. Donc, ce message-là au marché, quand on a déjà un taux à 10 ans à 4,4, là, je rejoins tout à fait Jean-Marc, on peut avoir, et ça, c'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé au Portugal, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays qui ont une crise de la dette, tout d'un coup, l'OAT monte en flèche, façon falaise, et là, vous ne pouvez plus l'arrêter. Et quand le spread, il va être à 200-300 points de base, c'est là où, en fait, on ne pourra plus piloter. Là, il faudra appeler, évidemment, la BCE pour faire des rachats au second marché de dette française. Et en échange, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont demander un plan comme un plan du FMI, la même chose. Voilà. Donc, en réalité...
Oui, mais certains ici sur ce plateau attendaient déjà ça quand François Hollande a été élu, en disant le taux va s'envoler, et puis
non,
ça n'a rien passé.
Non. Quand François Hollande a été élu, les débats sur le sujet, sur les taux, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les taux, et ce sujet, il est d'autant plus important que la BCE est en train d'augmenter ses taux aussi de son côté, et donc on n'est pas du tout dans une situation baissière des taux, on est dans une situation haussière.
Mondialement haussière.
Donc, en fait, la France, elle est prise en étau, si je peux me permettre, et à un moment, on va se retrouver dans, et je pense qu'on est très très proche, et le fait que ce soit concomitant avec la campagne présidentielle, je crois pas que ce soit un mal, je crois que c'est un bien, parce que c'est essentiel que les candidats à la présidence doivent se positionner là-dessus, et d'ailleurs c'était intéressant de voir la rentrée de la rêve du MEDEF, où finalement ce sujet de la dette était omniprésent, alors qu'en 2022, est-ce qu'on en a parlé du sujet de la dette? On en a quasiment pas parlé.
C'est la troisième préoccupation des Français, Denis, la dette, désormais.
Oui, je trouve ça très rassurant.
Devant l'immigration.
Oui, je rejoins tout à fait Agnès là-dessus. C'est rassurant. Ça veut dire que c'est devenu un sujet populaire, de grand public. Alors, les solutions ne sont pas toujours les bonnes.
C'est quand même Mélenchon qui a poussé le sujet.
Ce qui était proposé à la REF, ce qui est proposé par certains candidats. Mais au moins, le sujet est sur la table. Moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Jean-Marc à propos qui convoquait la Révolution française et toutes ces horreurs. Il y a quand même plein de pays qui ont connu des situations similaires et ça n'a pas toujours été absolument dramatique comme la Révolution, heureusement. Dans l'histoire récente, il y a bien sûr la Grèce, ça a été très dur, très pénible, un peu violent même à certains égards, pour certaines parties de la population.
On ne se souhaite pas ça quand même.
Mais il y a eu aussi, il y en a eu d'États. Il y a eu effectivement l'Espagne, le Portugal, où il y a eu une véritable déflation des salaires, une déflation des retraites, etc., des salaires des fonctionnaires.
Mais aujourd'hui, ils sont excédents.
Et aujourd'hui, ils sont excédentaires. Effectivement, il y a eu bien sûr l'Angleterre de Thatcher, il y a eu bien sûr la Suède dans les années 90. Moi, j'ai bien connu.
Et nous, on connaît pas ça.
Moi, j'avais des commerciaux en Suède, ils étaient à plus de 60% de dépenses publiques dans le PIB, plus à 62-63%. Et j'avais des commerciaux en Suède, on pouvait pas les motiver autrement qu'en leur offrant des voyages, parce qu'en fait, quand vous leur versiez une prime supplémentaire si vous avez une belle vente, ça servait à rien, tout partait en impôts. Donc par contre, les voyages n'étaient pas taxés, donc on offrait des voyages à nos commerciaux. Et donc il y a eu une réforme effectivement majeure en Suède.
L'effet l'affaire.
Il y a eu bien sûr aussi le Canada à une époque. L'Allemagne avec effectivement Schröder. Et avec des scénarios à chaque fois complètement différents.
Donc vous dites, on peut le faire.
Mais bien entendu. Au pied du mur et sous pression, bien sûr qu'on le fera. Après, le niveau de pénibilité sera probablement élevé. La réaction sera probablement un peu violente d'un certain nombre de gens, mais on reste un état de droit avec la force publique.
On a déjà coupé des têtes, hein. Jean-Marc, il nous fait peur quand même.
Non, mais je pense pas qu'on ira jusque là. Mais oui, ce sera probablement un choc assez brutal, désagréable, voire très désagréable pour beaucoup de Français. Donc c'est sûr que c'est mieux de l'anticiper et d'essayer de proposer à l'occasion effectivement de la présidentielle.
Mieux travailler plus longtemps.
Une réforme. Oui, travailler plus longtemps. Et puis une réforme de l'État qui soit populaire encore une fois, qui ramène de l'argent dans la poche, qui rende l'argent aux Français, qui baisse la CSG pour 100 euros d'économie, il y en a 30 qui va dans la poche des Français et 10% qui va dans la poche des fonctionnaires, sous la forme, encore une fois, d'une augmentation du revenu variable, hein, la création d'un variable. Mais, et ça, c'est quelque chose qui peut être populaire et qui peut éviter, effectivement, ces scénarios qui peuvent aller du dramatique de Jean-Marc Vittori au très pénible de la Grèce, en passant par toutes les nuances de gris.
Les Français sont pour une règle d'équilibre budgétaire et ils comprennent maintenant pourquoi, parce qu'ils voient que si jamais on avait une charge de la dette qui s'envolait d'une manière dingue, bah, c'est autant qu'on ne finance pas pour l'éducation. On n'a plus d'argent pour l'éducation, on n'a plus d'argent pour les retraites, on n'a plus d'argent pour payer les agents publics. Donc à un moment, il va y avoir un retournement aussi de tout le monde qui va dire « Attends, on ne peut pas continuer comme ça, sinon on n'aura pas nos retraites à la fin du mois, on n'aura pas nos salaires, on ne pourra pas payer les hôpitaux. » Et c'est ça qu'il faut aussi, c'est cette pédagogie-là, je trouve, qui n'a pas bien été faite ces dernières années, notamment au moment de la réforme des retraites, parce qu'on ne peut pas dire tout le temps « On vous fait des chèques, on dépense en s'endettant. » Et à un moment, il faut travailler plus longtemps pour financer tout ça. Pourquoi ? Parce que sinon, demain, on ne peut plus payer. Et ce sujet-là, cette mise en perspective, j'espère que ça va être le moment, avec cette campagne de 2027, pour bien expliquer tout ça aux Français et qu'ils ne soient pas pris en traître. Parce que depuis pas mal de mois, tous les sachants, les experts disent « Bon, de toute façon, on fera un peu ce que vous dites d'ailleurs, alors, on ne fera pas les réformes, on ne baissera pas les dépenses. » Et puis à la fin, ils disent « Bon, on attend le FMI. » Bon, alors, c'est une expression, parce que ce ne serait pas vraiment le FMI, ce serait la BCE.
Tant pis du mur.
Je trouve ça dommage de ne pas dire aux Français que pour éviter, justement, le FMI, ce qui s'est passé en Grèce, etc., c'est maintenant qu'il faut faire les réformes.
Discours, François Bayrou l'a essayé de dire ça.
Il n'a pas dit aussi clairement. L'hypocrisie, en fait, du politique, qui sait très bien, en fait, que... on est en train de foncer dans la direction d'une intervention FMI, BCE, Commission européenne, avec un plan hyper dur, alors qu'on pourrait faire nous-mêmes les réformes, et ne pas l'expliquer comme ça aux Français. Alors, certains l'ont dit, hein, Moscovici, quand il est parti de la Cour des comptes, il a quand même dit à un moment, la France peut se retrouver dans une situation vraiment catastrophique. Alors, je ne sais plus exactement le terme qu'il a dit, mais c'était proche du défaut. C'est quand même important que tous ceux qui prétendent, en fait, à la plus haute fonction dans notre pays... disent la vérité aux Français sur ce sujet.
Mais ceux qui prétendent à la haute fonction proposent la retraite à 60 ans. Je reviens.
Pas tous, vous prenez LFI, excusez-moi, mais c'est extrêmes.
55%. Les extrêmes aujourd'hui qui est en tête des sondages.
Oui, d'accord. Mais enfin, vous avez quand même beaucoup de gens, heureusement, enfin, quelques candidats, pas beaucoup, mais quelques candidats au centre droit. Vous avez Retailleau, Lisnard qui tiennent un discours un peu différent. Alors, effectivement, ils ne pèsent pas 55%. Mais ils commencent à peser. Ils montent, voilà. Ils ne pèsent pas rien. Non, à eux deux, ils pèsent une douzaine de pourcents.
Edouard Philippe parle des retraites, il dit courageux, et parle des retraites. Edouard Philippe ne veut même pas dire combien, jusqu'à quel âge il faut travailler, tellement il a peur d'aller sur le sujet.
Ouais, enfin, il a dit, moi je l'ai en privé en tout cas.
À vous peut-être, au conseil, il préfère rien dire. Bon, en tout cas, il y en a un qui dit qu'il faut travailler jusqu'à 67 ans, c'est Antoine Fouché. Alors Antoine Fouché, c'est bien parce que tout le monde le lit maintenant, Antoine Fouché, c'est quand même une bonne nouvelle, mais jusqu'au PS, tout le monde reprend ses propositions. Donc avec Clément Beaune, il propose d'aller jusqu'à 70 ans quand on a commencé à 24 ans. C'est un peu violent quand même, Jean-Marc. Je parlais de travailler plus. L'idée de vendre les 70 ans, je vois bien l'idée du pavé dans la mare pour lancer la discussion. Oui. Là, c'est aller loin quand même.
C'est aller loin. En même temps, cette discussion-là, elle commence à se développer un peu partout. Hein. C'est ce que disait Denis tout à l'heure. Donc c'est pas totalement aberrant, hein, si on regarde les évolutions démographiques, ce qu'il va falloir financer. Là où c'est compliqué, c'est que il faut donner aux gens les moyens de travailler plus longtemps. Donner aux gens les moyens de travailler plus longtemps, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, continuer de les former. Dans beaucoup d'entreprises actuellement, passer 45 ans, La formation, ça devient un truc totalement secondaire parce qu'il va, ou il ou elle va bientôt partir à la retraite. Donc, on arrête de former, de fait, hein, quand vous regardez les chiffres de la formation professionnelle, on arrête de fait de former les gens à partir de 45 ans, parfois jusqu'à 50 ans, mais au-delà, pourquoi, à quoi bon former quelqu'un ?
Donc là, c'est un problème culturel. Ouais.
Ça, c'est un problème culturel, c'est un problème de management. Il y a un autre problème de management, c'est qu'il faut donner aussi envie aux gens de continuer à travailler. Quand il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement, il y a des comparaisons internationales, les Français sont les gens qui ont envie de travailler, de partir le plus tôt. Ils ont envie de partir le plus tôt. Alors, il y a l'effet horizon, hein, évidemment, qu'on leur dit, vous allez pouvoir prendre la retraite à 60 ans, ben, partir de 55 ans, on commence à trouver ça difficile de travailler. Donc ça, voilà. Et c'est pour ça que c'est important de parler de 65 et
de bandage.
Voilà. Et d'avoir une perspective et de dire qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre, travailler, plus longtemps. Donc ça, c'est une chose à faire, mais une chose à faire, c'est avoir un management qui soit de meilleure qualité. Et il y a là encore, il y a des enquêtes internationales qui montrent qu'en France, plus qu'ailleurs, on a un management de petits chefs, on a un management avec des gens avec une ambiance désagréable, donc des gens qui n'ont pas envie de travailler. Et quand il y a une solution pour ne pas travailler qui s'appelle la retraite, ils veulent la prendre le plus tôt possible. Donc là, je pense qu'il faut, il y a évidemment une action publique absolument majeure, il y a une action des politiques, il y a une prise de conscience à développer, il y a du raisonnement à faire passer.
Ça, c'est du,
côté de l'action publique, mais du côté des entreprises, il y a aussi, selon moi, un immense travail à faire qui, pour l'instant, je trouve, n'est pas assez pris en compte.
Agnès ?
Non, mais je trouve que l'idée de la retraite à 60 ans, en fait, qui est très ancrée chez les Français, ben, en fait, elle nous vieillit tous. Parce que quand Jean-Marc dit à partir de 45 ans, on commence à plus former les gens, bah alors oui, c'est vrai, à 45 ans, on est fatigué, bah, il faudrait peut-être arrêter de travailler. Enfin, je veux dire, à un moment, en fait, on ne peut pas avoir de la croissance, on ne peut pas produire en France si on ne travaille pas. Il nous manque 7 milliards d'heures non travaillées par rapport à la moyenne de nos voisins européens. 7 milliards d'heures par an qui sont pas travaillées. Ça nous empêche de produire en richesse nationale de l'ordre de 80 milliards d'euros par an. C'est hyper grave, en fait, ce qui se passe en France. Non seulement on travaille trop tard, on travaille pas assez d'heures quand on est au travail, et en plus, on arrête de travailler trop tôt. Et en plus, quand on veut faire du cumul emploi-retraite, on a des mesures gouvernementales, grâce à la Cour des comptes, hein, soit dit en passant, qui a dit qu'il y avait trop de gens qui partaient trop tôt à la retraite et qui, derrière, cumulaient emploi-retraite. Au lieu de dire les catégories actives de l'État, les gens de la SNCF, etc., il faut qu'ils partent plus tard à la retraite, ils ont dit on va bloquer le cumul emploi-retraite, grosso modo, jusqu'à 67 ans. Mais c'est hallucinant, en fait. Ça va exactement à l'inverse de ce qu'il faut faire. Ils font deux fois l'inverse de ce qu'il faut faire. Ils suspendent la réforme des retraites et ensuite, ils désinguent le cumul emploi-retraite. Il y a plein d'entreprises en ce moment qui sont très embêtées parce qu'ils ne peuvent plus faire travailler. Et puis, alors, le sujet des médecins, hein, n'en parlons pas. Les médecins, on a besoin que les retraités continuent justement pour qu'il n'y ait pas de déserts médicaux. Et là, on les désincite à cumuler emploi-retraite. Mais bon, passons. Donc, évidemment qu'il faut travailler jusqu'à 67 ans. Évidemment qu'à un moment, il faut peut-être sortir aussi du politique ce sujet et dire le pilotage, il doit se faire de manière, en fait, arithmétique. Par une structure qui dit, voilà, comment j'équilibre mes comptes ? Parce que le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est qu'il y a un déséquilibre du financement des retraites publiques et le vrai sujet, le vrai déficit des retraites, il est dans les retraites publiques et les retraites de l'État où le déficit n'est pas affiché. Nous, on évalue l'ensemble du déficit.
Laissez-moi deux minutes pour Denis.
Autour de 15 milliards, hein, 15 milliards d'euros par an, qui n'est pas affiché. Et là, si on obligeait à équilibrer les comptes, ben bien sûr qu'on irait vers les 67 ans. Mais en fait, ça ne devrait même pas être un sujet de débat entre nous.
Denis, vous a dit, Edouard-Philippe, 67 ans, c'est oui.
Non, il ne m'a pas dit ça. Il m'a juste dit que c'était une de ses priorités. Ah. Mais ce qu'il faut peut-être juste ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, qui est tout à fait pertinent, c'est qu'à 65 ans, en 1980, quand on a réformé les retraites, on avait une espérance de vie qui était de 4 ans de plus à peu près, 3-4 ans de plus. Aujourd'hui, à 65 ans, on a une espérance de vie de, pour les hommes et pour les femmes, autour de 77, pratiquement 80 ans, quoi. Hein. Donc, l'espérance de vie a considérablement progressé. Donc, partir à la retraite à 67 ou 70 ans, on a une forme physique aujourd'hui qui n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, c'est tout le sujet. C'est que l'espérance de vie a considérablement progressé. Donc, on a une forme physique qui n'a rien à voir. On est parfaitement capable de travailler aujourd'hui à 67 ans, à 70 ans.
L'espérance de vie en bonne santé.
Tout à fait.
Merci beaucoup à tous les trois, Agnès Verdier, Molinier, Denis Père et Jean-Marc Vittori d'avoir été avec nous ce matin dans Les Experts. Roland Lescure, donc, il va s'exprimer d'ici quelques instants. On saura quels sont les nouveaux coups de rabot. En tout cas, la perspective de croissance devrait être revue selon les échos autour de 0,5. A priori, on suivra ça bien sûr toute la journée sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi.
Débat et controverse, les experts sur BFM Business.